Charles Plisnier est l'un de nos écrivains qu'un journaliste français désignait par cette périphrase la proie du succès. En effet, depuis Faux Passeport, qui obtint le prix Goncourt, ses livres sont tirés à des centaines de milliers d'exemplaires et lus dans le monde entier. De jour en jour, le public Plisnier s'élargit comme une tache d'encre sur un buvard, et cela ne va pas sans effrayer quelque peu l'auteur, le responsable de cette ruée acheteuse vers la littérature, n'est-ce pas, monsieur Plisnier ?
Oui, j'avoue que, en effet, je suis un peu effrayé. Il y a une idée répandue dans le public que le roman qu'il y a des lecteurs est presque nécessairement un mauvais roman. Je me demande si mes romans ne sont pas de mauvais romans, puisqu'on les lit autant.
Nous sommes là pour vous détromper.
Oui, mais cela ne me rassure quand même pas tout à fait. Alors j'en suis obligé de m'en référer à des précédents infiniment trop illustres, je pense à Balzac par exemple, et à Dostoïevski, auxquels je me garde de me comparer, mais dont les rééditions se lisent encore.
Oui. Eh bien, voilà, chers auditeurs, maintenant vous savez que nous avons réussi à piéger Charles Plisnier entre deux trains, car il est toujours entre deux trains. Entre deux voyages, France-Belgique. Il vit toute l'année en Seine-et-Marne, dans une petite solitude de 35 hectares. Mais comme il est né à Mons, comme toute son enfance s'est passée en Hainaut, il souffre parfois de ce qu'on appelle le mal du pays, ce mal qui ravage périodiquement les cœurs des coloniaux, des exilés et des soldats. Alors Charles Plisnier grimpe dans un wagon et repasse la frontière. Au fond, vous êtes souvent parmi nous, monsieur Plisnier.
Mais je suis très souvent en Belgique. Je viens en Belgique parce que j'ai en Belgique toutes mes attaches, toutes mes sources. La Belgique, c'est mon enfance, et non seulement mon enfance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais mon adolescence, ma jeunesse.
Oui.
Je viens en Belgique parce que je suis de ce pays, parce que je sens ce pays, parce que pour moi, le Hainaut, c'est ma patrie, parce que ma forme de sensibilité est ténuière. Vous comprenez, quand je suis loin d'ici, si j'y reste trop longtemps, j'ai le sentiment qu'il manque quelque chose. Il faut que je revienne. Et je reviens.
C'est cela. Eh bien, vous ne l'avez jamais été autant que ce soir parmi nous. Et nous profiterons de l'occasion, si vous le permettez, pour vous faire une radio.
Oui.
Pour examiner le Plisnier romancier et le Plisnier poète par transparence à l'aide de notre microphone. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le Plisnier poète. Écrivez-vous toujours des poèmes ?
Mais bien sûr, j'écris toujours des poèmes. Comment ferais-je autrement ? Je suis un malade incurable.
Oui, et nous avons de vous beaucoup de poèmes que vous avez écrits jadis et que l'on compare volontiers à des torrents gonflés des eaux de la grâce. À ce propos, avez-vous apporté ce petit recueil qui s'intitule Ave Génitrix que l'on vient de rééditer ? Je vous ai demandé de l'apporter parce qu'on le trouve, vous le savez, malaisément.
Oui, je l'ai apporté. Je l'ai là.
Très bien. Alors j'aimerais, avant que nous ne parlions plus en profondeur de poésie, j'aimerais que vous lisiez vous-même pour nos auditeurs quelques pages choisies dans Ave Génitrix. Voulez-vous ?
Voici un poème d'Ave Génitrix, c'est le second poème du recueil. Ce recueil est en quelque sorte offert à la mémoire de ma mère. Il est axé tout entier sur le thème de la mère. Sur le thème de la mère et sur le thème de Dieu, car c'est ma mère qui m'a ramené à Dieu. Mère, voici mes tempes vieilles, mon front usé, mes yeux ternis. J'ai l'âge où vous étiez pareil. Élie, Lama, Sabachthani. Mère, voici vos deux mains brunes et pures. Elles n'ont tenu que les doux fruits de l'infortune. Mes mains, les péchés ont tenu. Quelle ombre, lui, à travers l'ombre lustrale qu'épand votre corps. Je la vois, je la touche, mort. Une âme qui n'est plus au monde emplit le monde jusqu'au bord. Si je veux Dieu, c'est votre face que je vois luire sur le mur. Pour voir Dieu, dit votre voix d'astre, mon fils, êtes-vous assez pur? Vous avez défié l'orage, brûlé, brui, broui des corps trop terrestres, mais ces cadavres vous ont précédé dans le port. tous ces corps que vous fîtes geindre, et ce sang d'âme et de limon qui vint sucer vos lèvres teindre, et ces orques bénis à mon, et ces yeux qu'aima le démon. Êtes-vous sûr que ces délices, vieil enfant d'ombre et de péché, n'ont pas emprunt dans votre chair leur sceau de soufre et de silice? Je veux Dieu, dites-vous, mais Dieu n'obéit point aux vœux des mages. Il faut, pour recevoir l'image, la pureté. Et Dieu, pour que le noir ne se refasse, pour que l'espérance et le sel ne vous désertent, je ne sais à vous offrir que mon visage de mère. Mère, c'est assez.
Ces poèmes datent de quelle année?
Ces poèmes datent de 1930-1937. Ces poèmes ont été écrits à travers 6 ou 7 années qui marquent en quelque sorte mon approche, j'ai peur d'employer de grands mots qui, un peu impudiques, mon approche de Dieu.
C'est cela. Et pensiez-vous déjà à cette époque à des romans?
Mais mes premiers romans étaient écrits à oui. cette époque. J'avais écrit à cette époque Figure détruite, j'avais écrit Mariage, j'avais écrit Faux passeport. Quand j'ai achevé Ave Genitrix, ces livres étaient déjà publiés.
C'est cela. Et comment, une autre question, comment s'est décidée votre carrière de romancier?
Mais je ne sais pas si ma carrière de romancier s'est jamais décidée. Un jour, je me suis trouvé empli d'un certain nombre de personnages qui m'obsédaient. Je devais, sous peine de mort ou en tout cas de souffrance intolérable, oui. m'en délivrer et je me suis mis à écrire. C'est ainsi que j'ai écrit les premières Figures détruites, c'est ainsi que j'ai écrit Mariage. Je n'imaginais absolument pas que je fusse un romancier. Quand j'écris Mariage, par exemple, le livre écrit, je l'ai fourré dans un tiroir et je n'y ai plus pensé. Et c'est ma femme qui m'a forcé littéralement à le reprendre et à l'envoyer à un éditeur.
Et quelles sont vos méthodes de travail? Et tout d'abord, en avez-vous? Comment naissent les personnages de vos livres? C'est une question qu'on aime poser à des romanciers. Prenons des exemples précis, ce sera plus simple. Comment sont nés les personnages de meurtre?
Oh, c'est une question très compliquée, vous posez là, parce que les personnages de romanciers ne naissent pas toujours de la même manière, n'est-ce pas?
Oui.
Parfois, il s'agit d'une figure que l'on a vue, il s'agit d'un être qui vous a intéressé, qui vous a passionné, il s'agit d'un parent, d'un ami. D'autres fois, il s'agit d'une créature purement imaginaire, qui vous obsède à l'égal d'un vivant. Et le livre est fait précisément de ce mélange de personnages réels et de personnages imaginaires.
C'est ça. Oui, je comprends très bien. Ce qu'il y a de tout à fait particulier, c'est que les personnages imaginaires qui seraient dans Meurtre, par exemple, ont certainement des aspects aussi vivants que les personnages réels.
Ah, cher ami, c'est parce que les personnages imaginaires, comme vous dites et comme je viens de dire moi-même, oui. qui sont dans Meurtre, ne sont tout de même pas tout à fait imaginaires.
Voilà.
Prenez par exemple un personnage comme Noël Hannequin.
Oui.
Eh bien, il n'y a pas eu dans le monde un Noël Hannequin, mais il y en a eu 2 ou 3. Noël Hannequin est, si vous voulez, un mélange de 2 ou 3 personnes que j'ai vues, connues, dont j'ai vu et senti la souffrance, et que j'ai rassemblées en un être parce que ces 3 personnages avaient un drame commun. Ce drame commun est devenu le drame de Noël Hannequin.
Qui est devenu une synthèse.
Qui est devenu en quelque sorte une synthèse, oui, de l'homme qui a une vie intérieure dans un monde qui n'en a pas, et qui va, à travers toutes sortes de péchés, de luttes et de révoltes, vers un Dieu qu'il a d'abord refusé.
C'est cela. Et on ne vous a jamais reproché ce qu'on a reproché à certains écrivains, c'est-à-dire d'incorporer à votre style des expressions ou des mots qui sont purement du terroir. Vous avez, je le sais, brillamment et à plusieurs reprises, défendu votre langue. Il nous plairait de réentendre ici cette défense. Maître, vous avez, n'est-ce pas, était avocat, maître, la parole est à la défense, défendez ce provincialisme, comme vous dites.
Oui, justement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le provincialisme. On m'a reproché parfois des belgicismes. C'était toujours en Belgique. Pourquoi ? Parce qu'ici, ayant à défendre une langue assez menacée, on est obligé d'avoir un certain purisme. Jamais on ne m'a reproché de belgicisme en France. C'est en réalité, il n'y a pas de belgicisme dans mes livres. Mais ce qu'il peut y avoir, ce sont des provincialismes. Et à ces provincialismes, je tiens beaucoup. Ce sont ces provincialismes, n'est-ce pas, qui donnent la couleur du langage, qui donnent au langage son accent. Ces provincialismes sont aussi défendables que les provincialismes auvergnats ou bordelais.
Naturellement.
Ou normands, pourquoi pas. Il y a par exemple en Belgique un mot adorable, c'est le mot « aubette ». Eh bien évidemment, le mot « aubette » pour désigner un kiosque de journaux n'est pas français, mais c'est un mot délicieux. Quand on dit par exemple « ah non, je n'ai pas fait ça, je m'en suis bien gardé », on ne dira pas « je m'en suis bien gardé », on dit « je ne peux mal ». C'est évidemment une expression qui n'est pas française, mais cette expression est extrêmement jolie, et je la défends. Et j'ai essayé également d'introduire dans la langue le mot « drève », qui est fort beau, pour dire « aller », pour dire « avenu ». La drève lorraine, mais c'est très joli, la drève lorraine. Ce n'est pas français, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Cela le deviendra si des écrivains français emploient ce mot.
Voilà, justement.
Vous comprenez,
oui,
j'ai fait
oui.
passer le mot « pistolet ». Le mot « pistolet » pour dire un petit pain, n'est-ce pas ? Un petit pain.
Oui.
Eh bien, je l'ai fait passer dans « Meurtre », le mot « pistolet », en expliquant son origine. Un pistolet, c'était ce petit pain que l'on donnait aux prisonniers dans les prisons, aux prisonniers qui étaient nourris à la pistole, c'est-à-dire qui pouvaient faire venir leur nourriture du dehors. Mais c'est très joli, pistolet, j'aime beaucoup mieux ça que petit pain.
Oui, naturellement.
Alors pourquoi, moi, dans ma langue, dans mes livres, n'introduirais-je pas des mots qui sont des mots de mon pays et qui sont aussi défendables que des provincialismes normands ou des provincialismes auvergnats?
Oui, vous citiez Henri Pourrat, par exemple.
Henri Pourrat, il y a des provincialismes auvergnats dans Henri Pourrat et ils font le charme de la langue d'Henri Pourrat.
Et ils font corps avec...
Et ils font corps avec l'œuvre d'Henri Pourrat. L'œuvre d'Henri Pourrat est impensable sans certains provincialismes auvergnats. Je n'entends pas du tout écrivain français oublier que je suis ennuyé, wallon et belge.
C'est évident. Eh bien, maintenant, si vous le permettez, une question un peu embarrassante sur le plan du roman. Quelles sont vos théories ?
Oh !
Oui, oh, je...
Mais vous me posez là, mon cher, une question qui vous demanderait non pas une demi-heure d'entretien, mais des journées,
oui,
je prévoyais bien
que vous ne répondriez pas à cette question, mais tout de même en gros.
Mais je vais simplifier les choses en vous disant que je déteste les toutes théories en matière de roman. Un roman est un récit dans lequel on fait vivre des personnages. Le romancier, à mon sens, doit bien se garder de dominer et de diriger ses personnages. Il doit au contraire les voir. Je prends le mot « voir » dans le sens où on le prendrait quand il s'agit de visionnaire. Il doit les voir vivre, il doit les suivre à la piste. Il doit écrire, non pas ce qu'il veut qu'ils fassent, mais ce qu'ils font réellement. Il doit leur obéir. Il y a cet admirable mot, n'est-ce pas, de François Mauriac dans la préface de La fin de la nuit, le deuxième volume de Thérèse Desqueyroux, la suite de Thérèse Desqueyroux. François Mauriac, dans cette préface, dit cette chose admirable, vraiment une phrase d'or. « J'aurais voulu donner une fin édifiante à Thérèse, mais Thérèse n'a pas voulu. » Cela, n'est-ce pas, c'est le romancier qui suit ses personnages, qui les suit, qui obéit à leur propre loi. S'il y avait une théorie du roman, pour moi, ce serait celle-là.
Je vous remercie. Et revenons à la poésie. On prétend que beaucoup de vos poèmes ne sont pas encore publiés, que vous en amassez depuis des années. Est-ce vrai ?
Il est vrai que je continue à écrire des poèmes, je vous le disais tout à l'heure.
Oui, et environ, je crois, 15 volumes de vos poèmes ont été édités. Parmi ces 15 volumes, où placez-vous Ave Genitrix, dont vous nous avez déjà lu un poème? Est-ce une œuvre qui vous est particulièrement chère?
C'est une œuvre qui m'est très particulièrement chère, parce que c'est une œuvre dans laquelle j'ai aidé ma mère et Dieu. Je situerais, même si j'écrivais encore de nombreux poèmes, même si je publiais encore de nombreux volumes, je situerais Ave Genitrix à la fin de ma courbe poétique.
Merci, et maintenant, pour terminer, reprenons Ave Genitrix. Nous aimerions que vous nous en lisiez encore l'une ou l'autre page.
Souvenir. Rêves rêvés, descendus au sommeil, l'air mollissait, l'ombre virait aux roses. On frissonnait. On laissait une phrase inachevée. On écoutait le seuil. On sentait son bonheur comme une plaie vieille et qui saigne encore à petits coups. Maman disait, « Mon fils, j'ai peur de vous. » Passé, bonheur de ses mélancolies. Les jours ont lui, les nuits ont fui. Le corps cherche à refaire un peu de cette extase infime. Il attend. Les choses se taisent. Le néant emplit l'ombre jusqu'au bord. Le soir s'en vient, le temps s'en va, l'eau s'égoutte, la pierre s'use. On eut la force, on eut la ruse, on a le rêve qu'on rêva. Douce, et joignant vos mains confuses, vous guettiez mon âme, tout bas. Dans l'herbe près de l'Ocuba, je déclinais musa la muse. Jour sans ombre, espace sans limite, souvenir sans âge, il y avait un enfant sage. Et s'il élevait son visage vers votre visage innocent, il entendait chanter son sang. La mort de ma mère. Alors vint cette heure nocturne où devant le lit habité les fils tremblent que ce qu'ils eurent ne se change en éternité. J'ai bu le lait de vos mamelles, mangé vos rêves jusqu'au sang, et c'est votre âme qui se mêle à cette ombre où je redescends. Je vous ai sainte, célébrée, menti, manqué, désobéi. Je fus votre blé, votre ivraie. Vous fûtes mon mal, mon pays, tout ce qui mon cœur voulait prendre, délice, délire, excès divin, ivresse en mal de cendre, c'est à vous qu'il le ravissait. Ainsi, jongleur jouant au mage, malade aimant son mal caché, j'allais dispersant le plumage de vos anges sur mes bûchers. Mais quand mes bûchers ne fumèrent même plus, quand là de défi, enfin je vins vous rendre, ô mère, ce qui restait de votre fils. Je ne trouvais plus sur que ce lit, ce bateau qui tanguait déjà sous la vague et le vent de l'église, vivant rendu, cadavre absous. Alors lavé, alors sauvé, alors plus qu'à demi déjà, baignant dans cette aube rêvée, pour que Dieu vînt et vous jugeât, ô mère, entre toutes les femmes, vous ne vous crûtes point assez sainte encore, et prirent mes sept péchés pour en charger votre âme. La mort de ma mère. Mon père, qui depuis 10 heures tenait votre main dans ses paumes, appela doucement. Ma sœur trembla, se mit debout. Nous sommes seuls, Charles. Notre mère meurt. La lampe brûlait, calme flamme. sculptant ce masque d'ombre et d'eau où vacillait encore votre âme. Mais votre lit en guerre, radeau que déjà soulève la lame. La souffrance avait-elle usé ce corps indomptable? Ou si, dans ce combat de l'ange et du baiser, il avait usé la souffrance? Dieu le dira, lui seul qui sait. Nous considérions cette couche où longtemps vous aviez vogué, supplicié qu'une aile touche et qui farde d'un pli trop gai le rictus blessé de sa bouche. Vous n'étiez plus que le signe et l'emblème en ce monde visible d'un bonheur qui s'est résigné. Le trait est parti, mais la cible qui tremble n'a plus qu'à saigner. Ainsi longtemps nous demeurâmes ailleurs dans notre corps d'ici, comme si je mourais aussi, celle à qui vous m'aviez remis, posa sur ma main sa main calme. Mère, alors seulement mes yeux ont laissé se faire des larmes, et j'ai posé pour souffrir mieux sur votre épaule de cadavre mon front devenu soudain vieux. Mon fils, disait ma mère, lorsque tu te sentiras désert ce monde que des mains aimèrent, appelle, appelle à ton secours le souvenir de ce visage que j'étais flottant sur tes jours. Dans ces affres où tu t'engages, luttant contre les anges noirs, je suis ton otage et ton gage. De quel doute irais-tu doutant, apostat, relapse que Dieu hante, quand tu me vois, quand tu m'entends? Si ton triste cœur se réveille au souffle des enfers perdus, en vain t'enfuirais-tu? Je veille, gorge-toi de songes et d'orgueil, tente encore l'âge et le naufrage, l'aile et le feu, l'astre et l'écueil. Dans cette ombre où tu te replonges, ton cœur altéré de trembler ne tremble déjà plus qu'en songe. Et ce sang qu'il allait brassant pour l'orgasme et l'apostasie, c'est souvenu qu'il est mon sang. Cours, enfant plein de rides, sème sur ce théâtre où tu jouais le sel de tes derniers blasphèmes. Dans ce délire d'enivré, j'irai, transissant de tes transes, encore, et t'accompagnerai. Brise, fauche, fouille, saccage, c'est mon cœur que tu donneras aux fourches de ces beaux orages. Désormais, je ne lâche plus cette ombre que j'ai mise au monde, ce vivant que j'avais perdu. Il faut qu'il humilie sous les pieds souffrants de mon Dieu son front de luxe et de folie. Par mon sang qui coule dans tes veines, par mes yeux qui t'aimèrent, par mes seins qui t'ont allaité, par l'ombre et par les maladies où mourante je réchauffais ta chair sous mes mains refroidies, par le délire et par l'aura qui mon âme ont supplicié, ainsi le veux-je, et Dieu t'aura. Dès lors, je te rends au baptême brûlé vif. Et dès aujourd'hui, mon fils, tu serais près de lui si tu m'aimais autant qu'il t'aime. Quand j'appelle Dieu, c'est ma mère que je vois venir vers mon cœur. Mon fils, murmure-t-elle, as-tu besoin d'intercesseur? C'est toujours la mer terrestre, la mort, le ciel n'ont pas encore marqué sa face de ces ors glacés qu'on voit aux autres saintes. Elle a toujours ce tendre et noir regard que traversaient les songes, ses mains qui conjuraient mes soirs, qui me guérissaient de mes ombres. Ce fut la mère des Gésines, celle dont les yeux sont au fond des orbites, celle que font transir les souffles et les signes. Ce fut la mère des douceurs, celle qui voit, celle qui veille, celle qui craint et s'émerveille, un peu la fille, un peu la sœur. Ce fut la mère des silences, celle qui conjure au-dedans de notre chair le vieil Adam de Cotel et de violence. Ce fut la mère des sabbats, celle qui dispute à la lèpre du sang, au cancer des ténèbres, là l'ange en sursis qui se débat. Ce fut la mère des tendresses, celle qui dit « Il naît si noir chagrin, si trouble désespoir, que ne dissipe une caresse. Ce fut la mère des pardons, celle qui nos péchés réclame, les prend pour en charger son âme, et ce mal nous le rend en don. Ce fut la mère d'espérance, celle qui, touchant ce désert, notre cœur, reste sacra misère, change en rose notre souffrance. Ce fut la mère de la croix, celle qui suit et qui s'efface, à travers qui la sainte face rayonne, et de la voir, tu crois. Le dernier poème d'Ave Génitrix. Maman, vous avez cru comme les pauvres croient, cru comme on croit, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Baptiste qui vient devant eux, à Marie qui s'envole, au salut, au péché, à la croix. Au matin, quand le jour soulevait vos paupières, il éveillait votre âme avec votre prière. Cela venait de loin, les siècles, les dangers, le soir et les forêts qui referment leurs ombres sur le hameau hanté et les foudres profondes qui brûlent les troupeaux sous les yeux des bergers. Cela venait de loin, des prêtres, des églises, des morts mal endormis dans leurs trous de silice. Maman, vous avez cru. Une image d'azur ornait votre missel, et vous laissiez vos tristes mains comme des oiseaux frémir aux pieds du Christ, et vos pleurs se mêlaient au sang de ses blessures. Et vous disiez, mon fils, vois ce sang, goutte, à force. Il usera les pierres et tes doutes. Alors je souriais. Quel vain que le savoir. Je vous criais mon ciel, ma terre et mes genèses, et mes fureurs et mon Éden, et la mère Ève était une guenon qu'un singe faisait boire. Vous écoutiez très patiente et disiez, si tu veux, on dit cela. J'ai lu cela aussi, mais détournant vos yeux de ces noires images, vous repreniez le fil d'un doigt pensif et doux. Mon fils, reine aux cheveux d'étoiles, disiez-vous, ou petit de la bête, il y eut une femme. chair de lys ou sang noir, mille siècles, un jour, un fruit s'est entrouvert où Dieu mit son amour. Mais cette douceur troublait mon cœur sauvage, et ce Dieu qui noyait le ciel, votre regard, je le nommais marchand de songes, tueur d'âmes, imposteur, apostat, mauvais sage et faux mage. Mais vous disiez, mon fils, ton cœur ne sait pas tu, si Dieu n'existe point, pourquoi l'insultes-tu? Tu l'aimes, il te voit, mal transporté de haine. Tu l'aimes, il le sait, il t'appelle, il t'attend. Tu l'aimes, tu viendras sur l'épine et le temps étendre sous son corps, ton corps et ton poème. Tu viendras par les jours, tu viendras seul et nu. Tu viendras sanglotant. Mais je suis venu. Voici un extrait de mon roman « Beauté des LEDs ». C'est Sabine Sabrier qui parle. Ce qu'elle compte, une simple scène de jalousie. Hans, qui ne lui a pas encore avoué son amour, est jaloux de son passé, de l'homme qu'elle a épousé et qui est mort.